Bonjour à tous, bienvenue pour le 12e numéro d'En Spectateur, votre émission culturelle sur les ondes de Transistor. Comme chaque semaine, je vous propose d'embarquer pour un voyage artistique, jeu de pistes spectaculaires dans le Grand Lyon. Halte tout d'abord au Théâtre des Marronniers, le temps de Trace, de Grégoire Blanchon, une œuvre magistrale sur la mémoire à découvrir jusqu'au 3 décembre. Puis nous reviendrons dans le 7e arrondissement, non loin du métro de Bourg, dans d'étranges bâtiments gris qui vous sont familiers, au Théâtre Cantor, donc, pour revenir sur La maladie de la famille M de Fausto Paravidino, joué par la Compagnie du Bonheur Vert, les 23, 24 et 25 novembre dernier. Puis, musique de chambre, s'il vous plaît, à l'occasion du concert donné par le club de l'ENS le 13 décembre prochain en salle des thèses. Et pour nous en parler, nous recevons Cyril Éloire. Bonjour.
Bonjour.
Alors autour de toi, Cyril, mes amis chroniqueurs, qui vous diront, sans langue de bois bien sûr, ce qu'ils ont pensé de La maladie de la famille M et de Trace, oui, c'est ce qui s'appelle du placement de produits. Alors je ne vous les présente plus, vous les connaissez, Irène d'abord, bonjour Irène.
Bonjour.
Antonio. Bonjour. Et Florent.
Salut les copains.
Alors on est au complet et le temps d'un jingle, musique maestro. Musique maestro donc, puisque le 13 décembre à 18h, en salle des thèses, le club de musique de chambre de l'ENS vous propose une heure de concert avec au programme Debussy, Schubert, Ketelbé, Shostakovich. Les mélomanes apprécieront, et essentiellement, des duos ou des trios, piano avec ses solons, violon, violoncelle, flûte et clarinette. Un merveilleux concert donc en partenariat avec Transistor, qui l'enregistre et le rediffuse pendant les vacances de Noël. Et pour vous en parler donc, c'est Cyril qui a pris place derrière notre micro, alors je te laisse rapidement te présenter pour que ceux qui ne te connaîtraient pas fassent connaissance avec toi.
Oui, alors je suis ici en M2 de physique, donc en troisième année, je m'apprête à faire une thèse a priori en physique quantique.
Et donc tu fais partie du club de musique de chambre, quand
oui,
est-ce qu'il
ça.
A été créé?
Alors, quand est-ce qu'il a été créé exactement, je sais pas, puisqu'il existait... plusieurs années avant moi, mais l'année où je suis arrivé à l'ENS, il était plutôt inactif et donc je l'ai relancé donc l'an dernier.
Un club à revivifier quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc vraiment actif depuis l'année dernière.
Depuis voilà, septembre dernier.
C'est ça. Alors toi évidemment tu joues de la musique.
Oui.
De quel instrument?
Alors je fais du piano.
Et depuis combien de temps?
Depuis une dizaine d'années.
Ouais. Et comment ça s'est fait la rencontre avec la musique? C'est tes parents qui t'ont inscrit? C'était une volonté de ta part? C'était...
Oui, un peu les deux. Au début, bon, j'avais 10-11 ans par là, donc j'ai un peu commencé à essayer un instrument. Donc c'était un cours. À l'époque, je faisais du synthétiseur, donc c'était pas vraiment un instrument classique.
Première étape, synthé.
Voilà, c'est ça.
Et ensuite,
puis après, petit à petit, je suis passé au piano.
Et pourquoi cet instrument particulièrement? Pourquoi pas?
Oui, c'était un peu. Ouais, parce que c'était un peu ce que j'avais sous la main.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'était pas...
Facilité.
Voilà, pas facilité, ouais.
Et tu arrives à l'ENS et tu te renseignes de savoir s'il est possible de jouer ton instrument.
Voilà, ouais.
Et c'est là que t'apprends qu'il y avait un club qui existait avant et
qui
était un peu en déperdition.
C'est ça, exactement.
Ouais. Et alors, t'as l'idée de le recréer,
oui.
Tout seul, comment ça se passe?
J'ai déjà vu autour de moi, il y avait pas mal de musiciens qui avaient envie de jouer un peu à plusieurs, puisque c'est quand même plus intéressant dans la musique. Et donc, assez naturellement, j'ai pris contact. En plus, à cette époque, j'étais responsable des clubs du BDE, donc c'était assez facile de créer un club pour moi. Donc du coup, assez naturellement, j'ai décidé de me remettre un peu à la musique en groupe.
Très bien. Et alors, au club de musique de chambre, vous organisez des concerts, on en a parlé, celui du 13 décembre par exemple, mais aussi vous vous réunissez entre vous pour jouer, c'est ça? C'est ça, au départ, le fondement du
club. Oui, c'est ça. Voilà, oui, les concerts sont juste plutôt des prétextes pour, des objectifs pour se faire connaître d'une part et pour aussi travailler des morceaux, avoir un objectif en tête.
Montrer votre travail, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Et alors, justement, on évoquait tout à l'heure le programme du concert Debussy, Schubert, Ketelbé, Shostakovich. Comment ça se choisit? C'est comme ça, les gens arrivent avec des idées ou c'est quelqu'un qui impose?
Alors, en général, on organise un ou deux apéros dans l'année pour que les gens se rencontrent, parlent et discutent un peu des morceaux qu'ils ont envie de lancer.
D'accord.
Et donc, c'est à ce moment-là que...
C'est là qu'on fait le choix.
Voilà, c'est à ce moment-là qu'on fait le choix, au moins qu'on se forme des premiers groupes, etc.
Alors le choix là, Debussy, Schubert, Ketelbé, Shostakovich, c'est de la musique classique. Mais au club de musique de chambre, il n'y a pas que de la musique classique.
Non, il y a essentiellement de la musique classique, mais dans tous les cas, dans notre programmation, on est ouvert à peu près tout, d'autres types de musique. Et donc, au dernier concert, il y a eu notamment des musiques traditionnelles, donc des musiques de klezmer.
D'accord.
L'année dernière, on a eu plusieurs fois de la musique de film.
Mm-hmm. Donc, par exemple
c'était la musique du Seigneur des Anneaux, notamment.
D'accord.
Ouais, donc, un trio. Donc, c'était assez, assez sympa. Et donc, ça permet de, justement de faire un peu des styles différents dans le concert. Donc,
Et ça dépend donc des propositions des gens.
Oui,
par exemple, mes propositions, si je suis auditeur et que je suis intéressé par le club que tu es en train de décrire,
ouais.
Je peux prendre contact. Alors, je prends contact auprès de qui? Et quand ont lieu les réunions? Et quel de quel matériel vous disposez ici à l'ENS?
Alors,
c'est la minute un peu point technique, info pratique.
Info pratique. Alors déjà, donc, pour trouver le club, le plus direct, c'est d'aller sur le site du BDE.
Ouais.
Donc là, il y a l'adresse de la liste de diffusion. Au départ, le club, c'est une liste de diffusion sur laquelle sont inscrits pas mal de musiciens. Donc, mm-hmm. Et tous ceux qui le veulent peuvent se rajouter.
Voilà.
Et donc, comme ça, on peut rentrer en contact avec les autres musiciens, envoyer des messages, dire « bon, je cherche un violoniste pour faire tel morceau », etc. Donc, c'est aussi sur la liste qu'on donne rendez-vous pour les apéros, et les concerts, etc.
Donc ça, c'est la première chose à faire, s'inscrire sur la liste.
Oui, c'est voilà. La première chose à faire.
Essentiel.
Voilà. Donc ensuite pour donc on n'a pas de sinon mis à part donc ces apéros, on n'a pas de rendez-vous fixe pour les répétitions. C'est après aux gens qui ont formé un petit groupe de s'organiser selon leurs horaires communs. Donc en ce qui concerne le matériel, donc il y a plusieurs salles avec piano disponibles, mm-hmm. sur les deux sites de l'ENS. Alors elles sont plus ou moins faciles à trouver.
Ouais.
Il y a donc moi j'utilise beaucoup la salle des thèses qui est, oui. sur le site Mono. Mm-hmm. Donc là on y a accès. Il suffit de demander donc au deuxième étage du site Mono, il suffit de demander à être inscrit sur la liste des gens qui ont accès.
Voilà.
Il y a aussi
c'est d'ailleurs là qu'aura lieu le concert.
C'est là qu'aura lieu le concert, oui. Voilà. Oui, puisque la salle est assez grande, mm-hmm. c'est assez pratique. Il y a aussi une salle à la résidence Descartes.
Oui.
Voilà, donc une petite salle.
Tout à fait, ouais.
Et il y a aussi la salle F14 qui est utilisée par qui est gérée par le département de musique ici, mais donc bon, là il faut demander au
c'est moins facile d'accès.
C'est moins facile d'accès, voilà. Donc c'est assez compliqué.
Alors je peux être auditeur et être intéressé par ton club, je peux aussi être auditeur mélomane mais pas musicien et
oui.
avoir envie de venir donc écouter votre travail.
Bien
c'est
sûr.
Le cas ben, le 13 décembre en salle des thèses à 18h.
Ouais.
Alors un petit mot pour donner envie plus que le programme déjà alléchant de Debussy, Schubert, Ketelbé, Shostakovich de venir vous écouter donc à 18h en salle des thèses. Faut se vendre là.
Il faut se vendre. Bon,
c'est le moment.
Eh ben alors si vous déjà vous connaissez ces morceaux, ben, c'est l'occasion d'aller les écouter jouer donc par des gens de l'ENS. Alors c'est plus des morceaux assez récents, c'est plus
ouais.
Romantique et plus moderne, donc ouais, ça, ouais. ça permettra de donc c'est pas voilà, c'est pas des morceaux très classiques 18e siècle, mm-hmm. donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Le morceau de Ketelbé, c'est presque de la musique de film finalement.
Ouais.
Ouais, puisque c'est il décrit vraiment une scène. D'ailleurs, il y a beaucoup d'indications sur la partition de ce qui se passe, des
D'accord.
chamaniers arrivent, etc. Donc c'est assez assez original,
cinématographique et
voilà.
dramatique.
Le morceau de Schubert, donc c'est le trio pour piano numéro 2, il est très connu aussi puisqu'il a été repris dans pas mal de films, notamment ouais. Barry Lyndon de Stanley Kubrick.
Donc si on ne connaît pas, on va peut-être reconnaître.
On va sûrement reconnaître. Oui.
Ouais.
Donc c'est voilà, c'est des morceaux quand même qui sont assez emblématiques, assez sympathique à écouter.
Là, je pense que la mission est remplie, t'as donné envie à nos auditeurs de venir vous
J'espère.
Écouter. Rendez-vous donc le 13 décembre à 18h en salle des thèses pour le concert du club de musique de chambre en partenariat avec Transistor, puisque je vous le répète, nous enregistrerons le concert et nous vous le rediffuserons pendant les vacances de Noël. Merci Cyril.
Merci Thomas.
On reste à l'ENS, mais de la salle des thèses aura lieu le 13 décembre, à 18h, le concert de musique de chambre. Nous allons au Théâtre Cantor, où les 23, 24 et 25 novembre dernier étaient joués La maladie de la famille M de Fausto Paravidino par la compagnie du Bonheur Vert, une pièce drôlatique, ou de quiproquo amoureux en mésaventure tragicomique La famille M. vivait en pleine perte de repères et de valeurs, sous l'œil, loin d'être neutre, du médecin de campagne. C'est lui qui, narrateur et acteur, dresse un tableau général plein de tendresse, de désabusement et d'humour de cette famille composée de Luigi, le père qui a perdu sa femme et sa mémoire, Gianni, le fils rebelle, Martha, la fille qui oublie de penser à elle à force de penser aux autres, et Maria, la fille cadette prise entre Fulvio et Fabrizio. Ils étaient dans la salle, Antonio et Florent. Qu'en ont-ils pensé ? D'abord, Florent.
Alors, la maladie de la famille M ou le côté obscur de la vieillesse ? Mourir, la belle affaire, mais vieillir ! Vieillir, comme disait le seul proverbe de sagesse populaire belge. Dans la famille M, la mère a choisi la première option, le père la deuxième. Une mère suicidée, un père gâteux qui se compisse dans son pyjama, assisté par sa fille aînée. La sœur et le frère cadet, eux, n'en ont fond qu'à leur tête, profitant des nombreux loisirs que peut proposer une petite bourgade charmante traversée par une nationale. Pisser du haut d'un muret, se saouler au resto-route, faire un tour en voiture, fumer de la marijuana, baiser, boire, rebaiser, refumer de la marijuana, et ainsi de suite pour jongler entre cuite et avortement, décrit par le menu par le médecin de la ville, témoin tchécovien des drames de la famille M. Sur le papier, c'est assez alléchant, bien italien, une bonne pièce de la misère sociale qui règne dans les villages délaissés. L'auteur alterne des quiproquos comiques et des moments de dépression, comme le disait Thomas. Des moments de dépression comme ces dialogues qui évoquent un coucher de soleil dans la brume sur la zone industrielle portuaire de Dunkerque, quand ton kawaii froissé devient collant contre ta peau et que l'eau froide te ruisselle dans le cou en passant par tes cheveux dégoûtants de pluie acide due à la pollution de la région.
Une expérience personnelle, Florent ?
Absolument pas, j'ai jamais été à Dunkerque, Dieu m'en préserve. C'est chouette, c'est varié, c'est dommage que ce soit raté. Voilà, en trois mots. Hein. Parce que si la pièce, le texte en particulier, est poignant et prenant, la mise en scène laisse plutôt à désirer. Le jeu des acteurs, la compagnie mêle professionnelle et amateur, est très inégal, et seuls quelques personnages apportent des éclaircies dans cet horizon un peu terne. Souvent, on a l'impression que les acteurs ne s'écoutent pas et qu'ils plaquent leurs répliques, jouent des clichés ou adoptent un ton qui ne sert absolument pas le sens de la réplique. Le personnage du médecin, qui a un rôle clé dans la narration de l'histoire, n'est absolument pas crédible, à mon avis. Il a l'air de se délecter d'une histoire savoureuse à un pince-fesse mondain pendant tout le long de la pièce, entre une verrine et un cocktail. Enfin, la pièce est tachée par les noirs et les changements de scène qui grèvent la dynamique qui aurait pu sauver certaines scènes, même si des projections vidéo censées ouvrir le huis clos sur le village comblent également certains vides. Merci à la troupe de m'avoir fait découvrir cette pièce et cet auteur. C'est cependant regrettable que le jeu n'ait pas plus servi de texte.
Alors Antonio, est-ce que t'es aussi dur que Florent sur notamment la mise en scène ?
C'est vrai que comme Florent, j'ai trouvé ça un peu inégal par moment, même si c'est pas impossible qu'il y ait eu des ruptures et des changements de ton volontaires qu'on aurait eu du mal à percevoir pour plusieurs raisons. De manière générale, ça m'a paru un peu long, même si on s'ennuie pas vraiment, enfin en tout cas dans la majeure partie du spectacle, ça tarde un peu à finir dans le dernier tiers. Peut-être parce que le rythme qui juste là était très bien tenu, était très bon, il y avait un très bon rythme dans les deux premiers tiers du spectacle, est un peu décousu, démembré à la fin, ce qui tient aussi en partie, il faut le dire, à la décharge de la mise en scène au texte, qui multiplie les ruptures et des scènes très très courtes jusqu'à la toute fin de la pièce. Comme on a pu le voir après dans les propos de l'équipe, dans la rencontre qui a suivi la représentation. Ce qui est délibérément visé ici, c'est un jeu psychologique pour donner à voir avec le plus de naturel possible cette histoire de famille. C'est pour ça qu'on peut apprécier grandement le fait que les rôles des jeunes soient effectivement joués par des jeunes, des très jeunes qui ont typiquement l'âge du rôle, en marquant une différence entre les deux sœurs, par exemple, entre Maria et Martha. Différence qui va au-delà de la typique opposition entre la brune et la blonde, puisqu'elles n'ont évidemment pas du tout le même âge et ne sont pas du tout de la même génération, ce qui accentue bien la relation d'autorité qu'il y a de l'une à l'autre. La vidéo aussi va dans ce sens-là. Comme l'a dit Florent, entre autres choses, elle prétend montrer un dehors, le village dans lequel évolueraient les personnages quand ils ne sont plus sur scène, et donc accentuer le naturel qui est visé ici avec cette filiation tchécovienne revendiquée, comme l'a dit Florent. En effet, dans le texte, qui est plus ou moins cité, en tout cas un clin d'œil fait à Tchekhov dans le texte du médecin, mais aussi dans la mise en scène, qui se permet ce genre de clin d'œil, Je pense notamment à l'arrivée de Fabrizio avec des fleurs quand Maria est déjà avec son copain et qui reprend telle quelle une scène de l'oncle Vania. Alors, ceux qui affectionnent ce théâtre-là apprécieront. Sinon, pour les autres, effectivement, si on ne rentre pas dans ce spectacle et dans cette esthétique qui est réduite ici à la portion congrue, puisque tout est joué avec un banc, une table et quatre chaises, ça pourra paraître une épreuve, ou du moins ça paraîtra assez long.
Mais sinon, tu soulignes qu'il y a quand même un grand intérêt à cette pièce et de bonnes choses.
Oui, parce que si on fait preuve de bonne volonté, comme je l'ai fait, et d'ouverture d'esprit, ce qui n'était visiblement pas le cas de Florent, mais il faut dire qu'on était encore une fois assis à côté, et j'ai dû le perturber une fois de plus.
Référence à la précédente émission, chers auditeurs, si vous n'êtes pas au courant de ce feuilleton entre Florent et Antonio, eh bien, réécoutez-nous en spectateur numéro 11. Alors, contrairement à Antonio, toi, tu trouves plus de points négatifs dans la mise en scène. T'as été moins sensible au parti pris de mise en scène, apparemment.
Ah non, j'ai trouvé que le parti pris de mise en scène était intéressant, ce côté réaliste, mais qu'il y avait des moments où justement ça se perdait complètement dans du cliché qui était assez malvenu. Et c'est vrai que finalement je pense que je suis plus resté sur le dernier tiers de la pièce où effectivement ça ralentissait pas mal, comme un vieux chaotan qui s'éteint peu à peu au cimetière des éléphants un peu, enfin, sauf que là bon, il était en pyjama, en... Ça n'a aucun rapport, ce que
sauf
je dis.
Pas d'éléphant.
Voilà, donc voilà. Donc pour reprendre, ça serait quelque chose comme. C'est vrai que je suis resté un peu sur le dernier tiers de la pièce où le rythme ralentit très nettement, ce qui était assez dommage parce que je me suis quand même pas mal ennuyé à la fin et je pense que le bord de scène m'a un peu agacé aussi.
Alors impression mitigée, vous l'aurez compris. Si vous, chers auditeurs, vous avez adoré cette pièce, eh bien n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la page de l'émission. Au contraire, si vous avez passé un horrible moment, vous pouvez également nous laisser un petit commentaire. On les lit avec attention et on les intègre. Maintenant, c'est au Théâtre des Marronniers que je vous emmène pour une pièce que je vous conseille tout particulièrement, chers auditeurs, Trace, jouée jusqu'au 3 décembre, créée et mise en scène par Grégoire Blanchon, avec des musiques de Benjamin Gibert. Alors, une pièce sur la mémoire, faite de successions de tableaux, d'atmosphères, dont la source est les rencontres faites pendant 2 semaines à l'hôpital de Pélussin, au service gériatrique, entre Grégoire Blanchon, Benjamin Gibert et Pierre Madvon, qui signent également un court-métrage, une exposition de peinture à découvrir en marge du spectacle, au Théâtre des Marronniers. Donc, leur rencontre avec des personnes âgées, dont certaines atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies touchant la mémoire, ainsi que leur famille et le personnel qui encadrait donc ces personnes âgées. Alors vous l'avez compris, pour ma part je vous conseille fortement d'aller d'ici le 3 décembre, il vous reste encore quelques jours, précipitez-vous, au Théâtre des Marronniers donc, mais ici vous le savez, vous l'avez bien vu la semaine dernière où on m'a rapté mon rôle, je n'ai aucun pouvoir, je ne suis que l'animateur et ceux qui font et défont les spectacles, oui monsieur, rien que ça, je plaisante à peine, malgré son béret posé actuellement sur sa tête, eh bien ce sont les critiques comme Florent, mais aussi comme Irène ou Antonio, bref, la fine équipe d'En Spectateur, et je me tourne vers eux justement, qu'ont-ils pensé de Trace et est-ce qu'ils vous le conseillent, comme moi je me suis permis de le faire en introduction. Florent, toi d'abord, inspiré par ce spectacle ?
Alors je dois dire que Trace est une pièce assez surprenante, pour un lieu également surprenant. Donc à l'occasion de ce qui était pour moi la découverte d'un théâtre, je vous propose de faire un peu de tourisme audio non visuel. Donc prenez d'abord la rue des Marronniers d'un pas mesuré, une enfilade de bouchons, crêperies, restaurants alsaciens et surprise un restaurant de couscous perdu dans ce temple de la cuisine non halal où le porc est surreprésenté. Et là entre deux restaurants, un couloir étroit et obscur qui nous emmène dans une arrière-cour improbable avec une petite salle. Comme je le disais au début, lieu improbable, pièce improbable. En effet, en lisant d'abord la plaquette de ce spectacle, on peut craindre une pièce de sensibilisation misérabiliste troisième agiste, genre les pauvres papy-mamies qui souffrent dans leur hôpital gériatrique, mais c'est tout à fait autre chose qui nous attend dans la petite salle du théâtre. On est dans cette petite salle assis presque sur les genoux de son voisin, car l'espace est assez réduit. Sur scène, il y a une dizaine de chaises, de quoi doubler le public de la salle si on installait des gens dessus, des chaises disparates que vous avez forcément vues chez vos grands-parents, votre vieille tante ou votre famille picarde. Il y en a pour tous les mauvais goûts des années 70, quand le visage de la modernité était souvent en sky orange ouvert. Ces vieilles chaises résument finalement, dans la nostalgie et le bazar qu'elles évoquent, le fond même de la pièce qui va gratter les recoins poussiéreux des vieux souvenirs des ancêtres finissants et de leurs proches. Le matériau est assez particulier. Ce sont d'abord des entretiens avec les patients d'un service de gériatrie, les soignants de ces patients, les proches de ces patients et peut-être les proches des soignants, je n'ai pas été jusque-là, qui font le matériau de base de cette création sur la mémoire. La mémoire qu'on garde ou la mémoire qu'on laisse ou la mémoire qu'on invente même. Ces entretiens sont utilisés de trois manières ensuite. Montage d'entretiens en fond sonore, transformé en son d'ambiance, samplé et enfin certains textes sont joués par les acteurs. Donc une variété, un montage sonore qui est souvent accompagné d'un moment de danse, la personne perdue au milieu de ses chaises qui ont envahi la scène, dépareillée comme les souvenirs qui se bousculent. À mon avis, le seul inconvénient de ce spectacle est d'être trop court, ce qui est fort dommage car devant la forme étonnante, soit on met du temps à entrer dans la pièce, on n'a pas assez de temps justement pour l'apprécier, soit on est rentré tout de suite et dans ce cas, cette petite heure semble un peu courte, on aurait bien regardé ces paroles de vieux battre la breloque un peu plus. Pour nous consoler, il reste toujours le film peint, assez étrange, projeté après le film, où un artiste qui avait accompagné le metteur en scène dans les entretiens peint plusieurs couches d'histoire qui s'animent, représentant les différentes couches de mémoire se superposant, selon le metteur en scène, et qui font écho à ces toiles que l'on peut voir avant la pièce. Cette pièce surprenante met donc en valeur les trois avantages de la maladie d'Alzheimer. On rencontre des nouvelles personnes tous les jours, on fait de beaux spectacles sur la mémoire, grand sujet de rêverie, et on rencontre de nouvelles personnes tous les jours.
Irène, est-ce que tu as eu le même avis que Florent ? Dommage, c'était trop court, mais de très belles choses d'entrace.
Contrairement à Florent, je suis venue complètement désinformée à ce spectacle.
C'est
et
mal.
J'espère
c'est
que Thomas mal. Et Grégoire ne m'en tiendront pas rigueur. Mais à mon avis, nul besoin d'un paratexte pédagogique pour comprendre qu'il s'agit de mémoire et des traces qui subsistent dans notre discours et surtout nos gestes. Entre le ressassement de cet homme, le premier homme qui arrive sur scène, qui semble toujours prendre le bus, et le discours lâche et troué qui rassemble difficilement les miettes de Madeleine au fond de la tasse de thé, on assiste à une déclinaison des scènes de la mémoire. Le texte est très beau et a un véritable pouvoir évocatoire. Je sais maintenant, après m'être renseignée, que ce ne sont pas seulement les paroles des malades, mais ce sont aussi les mots des acteurs qui sont venus improviser. Et il y a un véritable travail sur le texte, d'incarnation du texte par les acteurs. Et le tout est orchestré par Grégoire Blanchon, pour le texte en tout cas, de manière de manière très positive. Mais je regrette vraiment le travail sur le corps, justement, puisque, comme le disait Grégoire Blanchon, il s'agit de réinvestir des habitudes gestuelles au travers de la chaise, au travers de la danse, mais elles semblent... il me semble que ce sont quand même des lieux communs un peu du théâtre contemporain, de ce travail systématique sur la danse, qui bien sûr avait son sens ici, mais vraiment, ça m'a gênée que ce spectacle soit complètement lacunaire, parce que ce que disait ce que j'attendais moi, enfin ce que j'aurais pu attendre de cette pièce qui parle de malades d'Alzheimer, c'est comme le dit Grégoire Blanchon, de remettre de la vie dans les années, non pas des années dans la vie, et se remettre du sens à cela. Or il s'agit davantage d'une déconstruction du sens progressive dans le spectacle, le rapport déréglé aux objets, la chorégraphie gratuitement esthétique, et pourtant c'est un spectacle qui tend à la totalisation. Entre danse, théâtre, musique, peinture et cinéma, les artistes ont tenté de nous présenter un spectacle total, et pourtant sur le manque, sur le trou. Autant dire que l'on construit une cathédrale sur un vide, un bâtiment toujours branlant en passe de tomber en ruine. Est-ce vraiment le sentiment profond, et dans ce cas-là, véritablement pessimiste, qui habite ces centres médicaux, le sentiment que la société se concentre sur ce qui est toujours en passe de la détruire, la fin de vie, l'arrêt de la mémoire, la fin de l'histoire, une mort toujours imminente. Dans ce cas, et c'est le sentiment qui a émergé en moi, je ne l'ai pas vécu comme une représentation, une construction de sens, une manière de dire ce qui est indicible, mais davantage comme le germe d'un théâtre décadentiste, si on réutilise un terme littéraire, mais pas décadent. Je tiens à dire qu'il y a une véritable différence. Et ce théâtre épuise le sens, au sens où il y a une... Où véritablement on travaille sur la lacune, le trou, le manque, mais aussi parce qu'il réutilise, à mon avis, comme je l'ai dit auparavant, des comment dire, des processus un peu à la mode, des tics théâtraux, de la danse notamment et du chant sur scène qui sont pas, qui perdent leur sens, enfin qui perdent leur crédibilité. Mais donc je reste assez partagée donc, du texte, du matériau textuel à la représentation, pour reprendre une opposition sommaire, mais que je crois toujours opérante. Le spectacle manque quelque chose et ne confine à rien du tout, d'une certaine manière. Je ne serais pas aussi sévère pour le court-métrage de Pierre Mathevon, qui formellement est intéressant, assez nouveau, qui fait travailler quand même entre le cinéma et la peinture, et pour le coup raconte véritablement une histoire, et lui réussissant en faisant référence pourtant à des scènes de lieux communs du cinéma, notamment l'entrée dans la gare de la Ciotat, arrive à transmettre quelque chose d'une unité, d'un parcours. Mais c'était intéressant aussi de mettre ce court-métrage à la fin, puisqu'il venait vraiment clôturer en donnant un sens véritablement, en donnant une vie, puisqu'on voit ces images s'animer de manière assez rigoureuse et assez organisée, au spectacle en général. Voilà.
Juste avant de donner la parole à Antonio, je pense que tu as vraiment saisi le sens vraiment de cette pièce. Quand tu parles de cathédrale au-dessus du vide, l'image est très belle d'ailleurs. Mais là, tu en tires ensuite une conclusion assez négative, assez pessimiste. Tu parles de décadentisme. Je crois que c'est assez symptomatique de la perception qu'on pouvait avoir de cette pièce. C'est-à-dire que soit on réagissait comme toi et on disait mais mince, cette pièce est très pessimiste. Et effectivement, ça met en exergue la futilité même de l'art et sa vacuité à essayer de donner de la beauté ou un sens à notre société, à notre vie et surtout à la fin de vie, à la perte de mémoire. En revanche, quand on se place de l'autre côté dans le cas des familles ou dans le cas des patients, je pense qu'on voit l'autre, on ne voit pas le vide, on voit la cathédrale qui émerge tout de même. Et la réussite de ce spectacle, c'est justement d'arriver à faire émerger de la beauté, certes éphémère et vacillante, dans un univers très pessimiste. Et c'est une bulle d'optimisme qui n'est à mon avis pas attirée du côté du décadentisme, mais qui montre bien que ce spectacle, déjà, il t'a touché, donc je pense que ça, c'est déjà un bon point, mais surtout qu'il peut être perçu de façon très diverse. Soit on trouve que c'est un spectacle très tendre, très optimiste, soit alors on le trouve très négatif parce qu'on se passe d'un bout ou de l'autre du spectre, si on a été touché ou pas par cette question de la mémoire ou de la fin de vie. Et je te laisse, Antonio, nous dire si tu as vu cette cathédrale au-dessus du vide ou pas du tout.
Alors, je voudrais souligner d'abord que Trace constitue une soirée un peu atypique au théâtre, puisqu'effectivement, on n'a pas à faire simplement un spectacle, mais aussi une exposition de peinture, la rencontre et le film après, comme on vient de le dire plusieurs fois. Soirée atypique, donc, qui exige une disposition particulière de la part du spectateur, que j'ai un petit peu eu du mal à trouver avant de voir que le spectacle présentait, en tout cas pour moi, un grand intérêt quand j'ai vu donc cette cathédrale au-dessus du vide, puisque c'est la métaphore qui va courir pendant cette émission.
C'est l'expression à la mode, oui.
Et que cette cathédrale au-dessus du vide m'a plu et m'a raconté des choses. J'ai été très sensible aussi à la modalité de réalisation de ce spectacle, qui me semble en accord parfait avec son contenu, avec ce qui est traité dans Trace. Bon, donc c'est-à-dire les questions de mémoire, de perte de la mémoire, etc. Comme si Trace était bâti de telle manière qu'on peut se souvenir de certaines séquences ou d'images marquantes. On vient d'évoquer une danse singulière avec des chaises. Je pense aussi à une séquence où chacun des acteurs évoque des souvenirs ou des situations marquantes lors d'événements qu'on considère déjà comme... comme historique.
Où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001? Exactement. Où est-ce que vous étiez lors de la mort de Mitterrand? Moi, personnellement, j'étais pas né, mais par contre, le 11 septembre, je sais où j'étais.
Mais même si on peut se souvenir donc de ces passages-là, la chronologie du spectacle me semble impossible à restituer. Thomas vient de mentir sur son âge. Il était né quand Mitterrand est mort. Enfin, bref.
J'étais né,
Chronologie impossible à restituer, je disais.
Bah oui, chronologie impossible à restituer.
On a affaire à un travail minutieux et complet autour de ça. La preuve, c'est que ça peut perdre certains spectateurs qui en oublient leur date de naissance. Ce qui m'a plu beaucoup, tout d'abord, c'est la dimension très, très intimiste de ce spectacle. Intimiste à un tel point que Florent s'est retrouvé assis sur les genoux de son voisin. Intimiste à tous les niveaux, donc la salle est très petite, on est très près des acteurs qui nous font face, qui s'adressent à nous en première personne. et qui reviennent à la fin du spectacle pour dialoguer avec l'assistance. Aussi travail minutieux dans l'oscillation entre l'attention qu'on porte à la personne des acteurs et aux personnes qui souffrent d'Alzheimer ou aux malades de cet hôpital dont ils prennent en charge les paroles. Ce qui était assez subtilement fait pendant le spectacle, qui peut semer le trouble dans le regard du spectateur quand il ne sait pas très bien à qui il a affaire. Je pense par exemple au travail qui a été fait sur leurs vêtements, puisqu'on a à peine parlé de costumes, ils sont en tenue de ville, mais en même temps, ils étaient tous dans des tons gris ou noirs. Également, enfin, pour donner un autre exemple, la musique, où un travail assez subtil sur les sons, avec plusieurs échos, les voix des témoignages, la reprise de morceaux légèrement modifiés, si bien qu'on se demande assez souvent si on ne les a pas déjà entendus, de telle manière qu'on crée par ce travail sur le son et la musique une forme d'absence qui est ici mise en avant de manière très très forte. Donc je serais d'accord pour ce qui a été dit tout à l'heure, ça paraît un peu court. Le temps de laisser tout ça s'installer et infuser dans le spectateur, c'est court, le temps d'en prendre conscience pour en goûter pleinement, ce qui peut laisser un peu froid le spectateur, mais qui est probablement voulu dans cette manière de conduire une action souterraine, relativement complexe, et dont on subit les effets sans en avoir la cause.
Donc finalement vous avez été marqués tous les deux, Antonio et Florent, par quelque chose qui a un petit peu embêté Irène. Est-ce que vous avez trouvé que ça faisait trop cliché de théâtre contemporain, et on va encore me huer pour avoir dit que c'est du théâtre contemporain, mais j'assume.
C'est vrai que danser au milieu de chaises depuis Café Muller pour souligner une sorte d'absence d'autant plus manifeste que ces chaises sont vides peut paraître cliché, mais justement ici on a affaire à quelque chose de différent, ou en tout cas qui ne vise pas la même chose, qui n'est pas dans la citation en tout cas de
parce que justement là ça ne sert pas à montrer que les chaises sont vides.
Non, ça montre plus comme ce qui a été dit le soir où nous étions là à la rencontre après, que la personne qui a affaire à ces chaises en a perdu l'usage, qu'elle est devant un objet complètement étranger comme s'il venait d'une autre planète.
C'est pour ça qu'elle le soulève
dans tous les sens.
Qu'elle danse avec elle.
Là, d'ailleurs, tu nous demandes quelle scène ou quelle séquence nous a le plus marqué. Alors, on dit celle-là presque instinctivement, immédiatement. Peut-être parce que c'est la rencontre parfaite entre une scène, une séquence qu'on peut vraiment dater avec un début et une fin, mm-hmm. et la création ou la tentative de provoquer une certaine sensations, des sentiments chez le spectateur qu'on a d'autres moments, mais de manière beaucoup plus brève et fugitive, puisque j'ai des images qui me viennent en tête quand la comédienne monte sur les chaises, mais à un autre moment, beaucoup plus tard dans le spectacle, où des phrases, des bribes de souvenirs, cette femme avec les sachets de sucre où on peut voir le Mont-Saint-Michel dessus, par exemple, mais des morceaux de texte ou des actions très courtes qui ne donnaient pas lieu à une scène, ce qui était pourtant le cas. Et c'est là que ça devenait très intéressant dans cette chorégraphie avec la chaise.
Comme si tous les fils de la pièce se nouaient en cet instant.
Voilà.
Pour moi, il y avait des éléments composites. Est-ce que c'est parce que c'est un jeune metteur en scène qui a du mal à se défaire d'un formalisme scolaire, ou est-ce qu'il est trop impressionné par des figures qu'il admire.
Formalisme scolaire, t'y vas fort quand même.
Ce sont des.
En fait, c'était formel.
Il y avait beaucoup d'exercices de style, il me semble. Parce que, notamment dans le placement des acteurs, c'est le travail sur la chorégraphie. Mais c'est vrai que c'est un metteur en scène qui est quand même très jeune. Donc il faut aussi prendre en compte quelles sont ses influences, ses inspirations. Et moi, elles étaient, pour moi, encore assez... Elles se voyaient encore, on va dire. Elles n'étaient pas complètement intégrées dans une œuvre d'auteur.
Alors on va croire qu'on se concentre uniquement sur la scène de la chaise, mais pour revenir là-dessus, sur cet aspect formel que tu décris, moi je pense que c'est à cause de cette distinction que je notais tout à l'heure, où toi forcément tu analyses ça en termes d'influence artistique, et je ne crois pas que ça soit vraiment ça qu'on voit, que tout le monde voit en tout cas, parce que je pense que vraiment c'est une volonté de prendre un élément qui existe, c'est-à-dire la perte de signification d'un objet du quotidien, que ce soit une chaise, mais ça aurait pu être un téléphone, par exemple, ou une fourchette, et d'essayer de faire de cette perte, qui est quand même dramatique, perdre la fonction de s'asseoir sur une chaise. Qu'est-ce qu'il y a de pire à imaginer? C'est quand même des repères basiques que l'on perd. Et de faire de cela quelque chose d'artistique. Alors oui, ça passe par un exercice de style. Mais la visée n'est pas de faire un exercice de style. C'est de donner une autre signification, une signification plus tendre, plus jolie, à une réalité qui est quand même assez sombre pour celui qui la vit, ou pour, je sais pas, l'enfant qui voit son père tourner autour d'une chaise, ou la prendre et la balancer parce qu'il ne sait plus ce que c'est.
Ou pas parce que ça donne lieu à quelque chose de créatif sous le regard du spectateur.
Et ben on va terminer là-dessus et vous ferez votre propre idée sur le côté formel ou créatif de Trace que je vous conseille moi particulièrement. Irène peut-être un peu moins, mais Antonio et Florent en tout cas plutôt. En tout cas, faites-vous votre idée et vous pouvez vous la faire jusqu'au 3 décembre au Théâtre des Marronniers. Fin du parcours artistique, donc, fin de notre jeu de pistes spectaculaire dans le Grand Lyon. Merci à ma petite bande, Irène, Florent et Antonio. Merci à Antoine, à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le 13e numéro d'En Spectateur, au cours duquel je troquerai mes habits habituels pour ceux de Père Noël, pour vous donner des idées et des envies de sorties théâtrales pour ce mois de décembre et les fêtes à venir. Je vous présenterai avec invité et interview à la clé la pièce Chambre avec vue, jouée au Théâtre des Marronniers, l'opéra Le Messie d'Handel, donné lui à l'Opéra de Lyon, Les Ombres de Peter Pan, qui illumineront, je l'espère, le Théâtre Cantor mi-décembre, et enfin Les Femmes Savantes, qui s'installeront au Théâtre de Vénissieux. Donc une émission de présentation pour vous donner des envies, évidemment des spectacles que nous irons ensuite voir pour vous et que nous commenterons. À la semaine prochaine donc, et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, au cinéma ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.